Radio Vatican, France et Afrique.
À mes auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Les activités du pape dans la journée de lundi occupent la première place de l'actualité de l'Église avant de faire écho de la vie de la famille des dieux qui est en Afrique du Sud, au Cameroun, en Zambie, à Madagascar, en République démocratique du Congo. Et pour l'actualité sociopolitique africaine, nous prendrons la direction du Nigeria, de l'Afrique du Sud encore une fois, du Mali entre autres. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
Le pape a reçu tour à tour lundi en audience privée Monseigneur Santiago de Witt Guzman, nonce apostolique en République centrafricaine et au Tchad, le cardinal João Braz de Avis, préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, avec le secrétaire du même dicastère, Monseigneur José Rodríguez Carvajal. Au chapitre de nomination, le Saint-Père a nommé lundi M. l'abbé Joseph Bernard Licolo Bokala Etumba du clergé de Kinshasa, évêque du diocèse de Lissala en République démocratique du Congo. L'évêque nommé était jusqu'à présent secrétaire de la commission épiscopale pour le culte divin et la discipline des sacrements de la conférence épiscopale nationale du Congo. L'évêque nommé est né le 29 août 1967 à Kinshasa. Il a été ordonné prêtre le 30 mai 1999 pour le compte de l'archidiocèse de Kinshasa. L'évêque du diocèse de Ndola, nous sommes en Zambie, Monseigneur Benjamin Firi, a ordonné aux membres du clergé de sa juridiction d'utiliser toutes les plantes séchées pour préparer les cendres qui seront utilisées au début du carême, le mercredi 17 février. Monseigneur Firi a déclaré que cette décision avait été prise à cause de la pandémie du nouveau coronavirus qui n'a pas permis la célébration du dimanche des Rameaux l'année dernière. Il autorise ainsi tous les curés de son diocèse à préparer des cendres à partir de n'importe quelle feuille de plantes ou branches séchées qui seront ensuite bénis pour être utilisés le mercredi de cendres. L'évêque de Ndola a par ailleurs recommandé ses prêtres de distribuer les cendres conformément aux directives émises par la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Recommandation sur le mercredi des cendres toujours, mais cette fois-ci en Afrique du Sud. Monseigneur Joseph Kizito, évêque d'Aliwal, a proposé plusieurs options pour le mercredi des cendres de cette année, notamment l'optation des cendres provenant des branches de palmiers inutilisées des années précédentes. Pour Monseigneur Kizito, cela compensera le vide créé par la COVID-19 l'année dernière, car le dimanche des Rameaux n'a pas été célébré dans son diocèse. Faisant référence à la possibilité d'utiliser des branches d'autres espèces d'arbres, l'évêque d'Aliwal a conseillé à ses prêtres de cueillir des feuilles sèches et décentes, de préférence dans un environnement propre. Pour ceux qui ne peuvent pas obtenir des branches du palmier, Monseigneur Kizito rappelle qu'il ne s'agit pas de palmier, mais du symbole. Il appelle enfin les prêtres et les laïcs impliqués dans la célébration du mercredi des cendres et les célébrations ultérieures à adhérer aux directives COVID-19 données par les autorités compétentes du pays. Le missionnaire et fondateur de la Cité de l'Amitié que le pape a visité au cours de son voyage apostolique à Madagascar en septembre 2019, le père Pedro Opeka, a été nominé en vue du prix Nobel de la paix par le premier ministre slovène Janez Janša. Âgé de 72 ans, le prêtre argentin a fondé l'association humanitaire Akamasu en 1989 en tant que mouvement de solidarité pour aider les plus pauvres qui vivaient dans une décharge à la périphérie de la capitale malgache, Antananarivo. Nous vous proposons d'écouter un extrait de l'entretien que nous avons eu avec le père Pedro à l'occasion du premier anniversaire de la visite du pape à Madagascar.
Il y a 25 000 personnes ici. Il y a 15 000 enfants scolarisés, il y a plus de 3 000 ouvriers et ouvrières qui travaillent pour construire leur propre ville. Eh bien, ces jeunes, ces enfants sont comme des petits anges. Ce sont tellement beaux, ces sourires qui viennent du fond de leur cœur, du fond de leur âme, comment on va dire qu'il n'a pas d'avenir, qu'il ne peut pas aller à l'école, qu'il ne peut pas manger à sa faim, qu'il ne peut pas se soigner, qu'il ne peut pas avoir un logement digne? Nous avons fait 20 logements pour des femmes qui étaient abandonnées par leur mari, avec de nombreux enfants. Il fallait voir la joie de ces enfants, la joie de ces mamans. Et j'ai envoyé au pape ce matin des photos de ces mamans et ces enfants qui sont entrés dans ces logements. Et aussi, nous avons refait, là où le pape a béni les gens, on a fait une esplanade qu'on appelle l'esplanade de pape François, où les gens viennent souvent faire de réflexions, de méditations, de retraites. Les paroisses de toute la ville de Tana viennent là pour prier.
Père Pedro Opeka, fondateur de l'association humanitaire Akamasu à Antananarivo, à Madagascar. Récupérer la nature chrétienne de la fête de Saint-Valentin, c'est l'objectif que s'est fixé l'abbé Dieudonné Kambale Kasika, curé aumônier de l'aumônerie universitaire et paroisse Saint-Esprit de l'archidiocèse de Kisangani, au nord-est de la République démocratique du Congo. En collaboration avec la commission de la pastorale du mariage et de la famille, l'abbé Kambale Kasika a organisé 3 jours de prière, enseignement et échange sur les thèmes de l'amour. Environ 230 jeunes ont suivi les enseignements sur les thèmes « Amour attendu et amour accueilli ». Le samedi 13 février dernier, l'abbé Kambale a abordé le thème de l'amour blessé. Il a ainsi évoqué les différentes formes de blessures et de souffrances dans l'amour, identifié leurs causes et indiqué les moyens pour les surmonter. Restons toujours en République démocratique du Congo pour parler de la célébration du Journée mondiale du malade dans les diocèses de Mahagignoka et de Cabinda. Reportage.
À travers votre maladie, vous communiez à la souffrance du Christ qui sauve le monde. Déclaration de Mgr Sosten Ayikoli, évêque de Mahagignoka dans la province de l'Ituri. Le 11 février, en la Journée mondiale du malade, l'évêque s'adressait à quelques 300 malades chroniques et personnes vivant avec handicap réunis pendant 3 jours de récollection dans la paroisse Notre-Dame de l'Assomption de Jalousséné. L'évêque a invité les malades à avoir une image positive d'eux-mêmes. Même si tel ou tel membre est touché, vous êtes des personnes humaines à part entière, créées à l'image de Dieu, a-t-il dit. Mgr Ayikoli a par ailleurs exhorté les malades à soigner leur vie spirituelle et sacramentelle. Il a invité les personnes physiquement saines à jeter un regard de respect sur les malades. Au diocèse de Cabinda, dans la province de la Lomami, Mgr Félicien Tamboué a exhorté à la solidarité et au respect de la dignité du malade. L'évêque a célébré une messe le 11 février pour les malades et le personnel soignant de l'hôpital de référence Saint-Camille de Cabinda. À l'homélie inspirée du message du pape François, l'évêque de Cabinda a invité à bannir toute barrière psychologique entre les malades et les bien portants. La relation avec la personne malade trouve une source inépuisable de motivation dans la charité du Christ qui veut que personne ne se sente abandonné, a dit l'évêque de Cabinda. Jean-Baptiste Malengue Kalunzu pour Radio Vatican.
Rendons-nous à présent au Cameroun pour parler des activités des fidèles chrétiens du diocèse de Sangmélima pour soutenir les malades. Les détails dans ce compte rendu de notre correspondante locale.
Le ton a été effectivement donné à la cathédrale Saint-Joseph de Sangmélima par le recteur, l'abbé Georges Eko. Après une semaine d'enseignement sur la nécessité pour chaque fidèle de s'engager dans la pastorale des malades, une collecte des fonds a eu lieu au cours d'une messe à laquelle plusieurs fidèles ont pris part, avec une présence très remarquée du personnel soignant et des responsables des 9 formations sanitaires de la ville de Sangmélima et des localités environnantes. Ces derniers ont été encouragés à la lumière du message du pape François à témoigner du Christ dans leur profession en étant compatissants, attentionnés, patients et affectueux envers les malades dont ils ont la charge. L'abbé Georges Collès a par ailleurs invité à veiller à ce que chaque personne qui intervient, de quelque manière que ce soit, dans la prise en charge des patients, le fasse avec charité et professionnalisme. Au cours de cette célébration eucharistique, des prières particulières ont été élevées pour tous ceux qui souffrent de la COVID-19 dans le monde. Les personnels soignants ont fait bénir leurs outils de travail et les malades qui ont pu se déplacer pour cet événement ont reçu l'imposition des mains. Un montant de 81 450 francs CFA a été collecté et servira à la première visite des malades et notamment ceux de la prison de Sangmélima. Paul Valéry Mondogo de Douala pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'ancien président sud-africain Jacob Zuma ne s'est pas une nouvelle fois présenté lundi devant la commission chargée d'enquêter sur la corruption généralisée durant ses 9 années au pouvoir. En janvier, la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, saisie par la commission d'enquête, avait rendu une décision obligeant M. Zuma à comparaître et lui ôtant le droit à garder le silence. Malgré cela, les avocats de Jacob Zuma ont prévenu lundi que leur client ne comparaîtrait pas devant la commission devant laquelle il est à nouveau convoqué toute la semaine. Zuma réclame depuis plusieurs mois la récusation du président de la commission, le juge Raymond Zondo, qu'il accuse d'être partial. Dans ses bras de fer, le juge Zondo a refusé de se récuser, mais Jacob Zuma a demandé la révision de cette décision. Le Zimbabwe a reçu lundi un premier lot de 200 000 vaccins contre la COVID-19, un don du fabricant chinois Sinopharm. Le Zimbabwe est le premier pays d'Afrique australe à recevoir les vaccins chinois contre la COVID-19. Au moins 11 civils et 3 soldats ont été tués dimanche dans une attaque attribuée au groupe armé Force démocratique alliée ADF en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Selon l'armée congolaise, les ADF ont fait incursion dans la localité de Ndalia et ont tué au moins 11 personnes. Dans les combats qui ont suivi, 3 éléments de l'armée sont tombés tandis que 4 éléments ADF ont été neutralisés. Les autorités sécuritaires et administratives maliennes ont annoncé lundi que 2 soldats maliens avaient été tués dimanche dans le centre du pays par l'explosion d'une mine posée par des terroristes au passage de leur véhicule. Selon les mêmes autorités, 2 autres soldats ont été blessés dans cet incident et ont été transportés vers un hôpital dans la zone. Les 4 soldats étaient membres d'une mission qui escortait des agents pour un forage de puits d'eau dans la zone, selon une autre source de sécurité.
Radio Vatican, France-Afrique, Jean-Pierre Bodjoko.
La justice algérienne a condamné lundi Chem Eddine Lahami, dit Brahim, une des figures du mouvement de protestation anti-régime, Hurak, à 2 ans de prison ferme assorti d'une amende de 200 000 dinars, soit environ 1250 euros. En détention provisoire depuis le 9 septembre dernier, M. Lahami, âgé de 29 ans, devait répondre de 6 chefs d'accusation. Il a été acquitté pour 3 d'entre eux, mais condamné pour offense au président de la République, outrage à corps constitué et publication de fausses informations, a précisé Maître Mounir Garbi, avocat et membre du collectif de défense de l'accusé. Le parquet avait requis 4 ans de prison ferme et une amende de 500 000 dinars. Cette sentence sévère survient à une semaine du 2e anniversaire du Hirak, le soulèvement populaire déclenché le 22 février 2019 dans un climat de crispation du pouvoir confronté à une crise politique, sanitaire et socio-économique. Le président nigérien Muhammadu Buhari a promis lundi de protéger tous les groupes religieux et ethniques du pays en réaction aux violences meurtrières qui ont éclaté vendredi entre communautés Hausa, ethnie majoritaire dans le nord du pays, et Yoruba, ethnie majoritaire dans le sud-ouest, sur un marché du sud-ouest du pays. Par ailleurs, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala a été nommée lundi première femme et première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Madame Okonjo-Iweala était la seule candidate en lice grâce à un large consensus et notamment le soutien de l'Union africaine, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. Comme les délégués qui ont débattu leur choix par vidéoconférence et s'est adressé à distance à la presse. 2 fois ministre des Finances et chef de la diplomatie du Nigeria durant 2 mois, Madame Okonjo a commencé sa carrière à la Banque mondiale en 1982 où elle a travaillé pendant 25 ans. En 2012, elle a échoué à devenir la présidente de cette institution financière face à l'américano-coréen Jim Yong Kim. Le président du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, Peter Maurer, a appelé dimanche la communauté internationale à aider financièrement davantage le Mozambique en proie à une crise humanitaire dans le nord, cible d'une offensive djihadiste. Cette déclaration intervient à l'issue d'une visite de 2 jours effectuée par M. Maurer à Pemba, capitale de la province de Cabo Delgado, où des centaines de milliers de déplacés ont trouvé refuge.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Le magazine de la santé avec Marie-Josée Moindo Boisboileau.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine sur la santé concerne la célébration de la Journée internationale du cancer de l'enfant qui a pour objectif d'informer et de sensibiliser l'opinion sur les cancers de l'enfant. C'est aussi l'occasion de récolter des dons afin de faire avancer la recherche. La Journée internationale du cancer de l'enfant est organisée chaque année le 15 février depuis son lancement en 2002. La recherche est l'axe prioritaire pour accompagner les enfants et les familles et lutter tant sur la maladie que sur les effets secondaires et les séquelles. Des données de qualité sur l'incidence du cancer et la survie des enfants sont essentiels pour mieux comprendre et combattre la maladie, affirme le Centre de recherche international sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé. Selon ce centre, au moins 215 000 cancers sont diagnostiqués chaque année chez les enfants de moins de 15 ans et 85 000 autres chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans. Dans les pays à revenus élevés, 80% des patients peuvent être guéris. Avec le manque de sensibilisation, d'infrastructures médicales ou d'installations de diagnostics et de traitements efficaces dans les pays à faibles ressources, la proportion d'enfants qui meurent du cancer peut être 4 fois plus élevée que dans les pays riches. Le manque d'infrastructures et de registres de qualité dans de nombreux pays à faibles revenus s'est traduit par le fait que les données des décrivant le fléau du cancer chez l'enfant sont rares. Par exemple, les données portant sur l'incidence du cancer ne sont disponibles que pour 5% de la population infantile totale en Afrique et l'on ne peut mesurer la survie que pour une fraction encore plus faible de la population. Le cancer demeure rare chez les enfants, d'après le Centre international de recherche sur le cancer. Les enfants souffrent également de types de cancers différents des adultes. Près de la moitié sont des cancers des cellules sanguines, leucémie et lymphome. Les autres tumeurs malignes les plus fréquentes étant des tumeurs du système nerveux central et les tumeurs qui se développent à partir des tissus embryonnaires. Pour mieux comprendre et combattre la maladie, le Centre international de recherche sur le cancer s'est associé à la récente initiative mondiale de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte contre le cancer chez l'enfant. Cette initiative vise à réduire les inégalités en matière d'accès à un diagnostic et à un traitement de qualité et à améliorer ainsi l'efficacité du traitement pour tous les enfants et notamment ceux qui vivent dans des pays aux ressources limitées. L'initiative de l'Organisation mondiale de la santé vise à atteindre un taux de survie d'au moins 60% pour tous les enfants atteints de cancer dans le monde d'ici à 2030, soit un doublement du taux de guérison actuelle. Cela permettrait de sauver 1 million de vies supplémentaires au cours des 10 prochaines années. Dans le cadre de l'initiative mondiale, les travaux du Centre international de recherche sur le cancer vont permettre d'identifier les obstacles et les défis que pose l'enregistrement et de proposer des approches pour améliorer la qualité des données dans les registres existants, notamment concernant les enfants. Le manque de données de qualité empêche les gouvernements d'identifier des politiques de santé publique efficaces et de répondre aux besoins des patients. L'Organisation mondiale de la santé compte élaborer un rapport technique pour orienter l'expansion de l'enregistrement des cancers chez l'enfant en expliquant le rôle des registres, les méthodes de recueil, le contrôle qualité, la diffusion et l'utilisation des données. Le Centre international de recherche sur le cancer contribue également à l'évaluation du coût des actions nécessaires au niveau national ainsi que du coût de l'absence d'action. Rappelons que le Centre international de recherche sur le cancer et l'Agence spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé pour la recherche sur le cancer, créée en mai 1965 par une résolution de l'Assemblée mondiale de la santé. Le centre est un institut de recherche multidisciplinaire qui réunit des compétences dans les disciplines de l'épidémiologie, des sciences de laboratoire, de la biostatistique et de la bioinformatique.
Françoise Niamien nous parle maintenant de la technologie. C'est notre rubrique du jour.
Commençons notre rubrique sur la technologie par la présentation officielle du programme Grenier Frais le jeudi 11 février dernier à Ouagadougou, Burkina Faso, par l'inventeur Silver Salga et le chef coutumier et président du groupe Belouet Biocarburant, le Narlé Narba Tigré. Le programme Grenier Frais est une technique locale de conservation des produits agro-silvo-pastoraux. Cette innovation offre un ouvrage moderne aux producteurs, revendeurs, transformateurs, importateurs ou exportateurs et tous les acteurs dans la conservation de leurs produits afin de mieux les rentabiliser. Pour l'inventeur Silver Salga, le grenier frais, encore connu sous l'appellation chambre froide, a de multifonctions. Il est complètement autonome et fonctionne à l'aide d'énergie solaire, a-t-il indiqué. Le grenier frais est entièrement autonome, mais il est possible de mettre un dispositif alterné avec le courant électrique. Il peut aussi produire de l'énergie pour les ménages environnants grâce à son système de stockage d'énergie, a encore expliqué l'inventeur. Pour le Lale Naba Tigré, la chambre froide du jeune inventeur doit inspirer d'autres génies en vue de développer le pays, a souhaité le président du groupe Belouet Biocarburant. Présent à la cérémonie de lancement du grenier frais, les ministres en charge de l'énergie, Bachir Ismaël Ouédraogo, et de l'agriculture, Salifou Ouédraogo, ont pour leur part indiqué l'importance d'adopter cette invention afin d'apporter la solution aux nombreuses pertes des produits agroalimentaires et agro-silvo-pastoraux. Aux États-Unis d'Amérique, des chercheurs du laboratoire de recherche de l'armée sont parvenus à mettre au point un capteur quantique capable d'analyser finement le spectre des radiofréquences sur une plage allant jusqu'à 20 GHz, un spectre qui couvre notamment le Bluetooth, le Wi-Fi et de nombreuses autres méthodes de communication. Il exploite pour cela des atomes de rubidium en état de Rydberg. Ces atomes utilisés dans les ordinateurs quantiques sont très sensibles aux ondes électromagnétiques. Selon les chercheurs, en les excitant, ils passent de cet état de Rydberg, ce qui leur permet d'identifier et d'analyser précisément les ondes. L'appareil connecte les ondes radio d'entrée, les traite dans un système à micro-ondes et exploite ensuite des algorithmes pour affirmer et augmenter la sensibilité aux régions ciblées du spectre des radiofréquences. Ces capteurs quantiques existent déjà depuis quelques années, mais jusqu'à maintenant, ils ne parvenaient pas à détecter que de petites plages du spectre des fréquences. Avec leur invention, les scientifiques du laboratoire de recherche de l'armée couvrent une très large plage de façon précise. Un tel outil pourrait justement servir à protéger les systèmes de communication contre des brouilleurs ou des interférences. Il serait aussi utilisable pour détecter et percer les communications de l'adversaire, indiqua-t-il. Parlons maintenant des épinards transformés en capteurs de pollution. Cela fait désormais 4 ans que le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis d'Amérique travaille sur des épinards bioniques et ils sont désormais connectés au point d'envoyer des emails. Au départ, l'idée était d'incorporer des nanotubes de carbone dans des feuilles afin de permettre de détecter la présence d'explosifs dans le sol. En clair, les feuilles se transforment en capteurs et aujourd'hui, les recherches vont encore plus loin. Ainsi, les épinards ne se contentent plus de détecter des traces d'explosifs puisqu'ils sont désormais programmés pour prévenir de la pollution des sols. Les plantes sont très respectueuses de l'environnement. Elles savent qu'il y aura une sécheresse bien avant nous, a expliqué Michael Strano qui a dirigé la recherche. Elles peuvent détecter des petits changements dans les propriétés du sol et du potentiel hydrique. Si nous exploitons ces voies de signalisation chimique, il y aura une mine d'informations à utiliser, a-t-il ajouté. Selon les scientifiques du Massachusetts Institute of Technology, le but à terme est d'utiliser ces plantes pour alerter sur la pollution des eaux souterraines, mais aussi pour prévenir d'une sécheresse et donc des changements climatiques.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme. Aujourd'hui, au nom de toute l'équipe du service français Afrique du Radio Vatican, Jean-Pierre Bodjoko vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Le rendez-vous, c'est pour demain. Même heure, même fréquence, même radio.